Le jardin des mots.
Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir dans l'espace immatériel de notre jardin des mots. Notre mot du jour est depuis toujours une énigme. Elle n'entend pas, ne se voit pas, ne se touche pas, ne se goûte pas et n'a pas d'odeur.
Bonjour à tous. Je te laisse Lily nous expliquer le mystère de l'âme.
Pour l'homme, il convient de faire plus grand cas de l'âme que du corps, car l'excellence de l'âme corrige la faiblesse du corps, alors que sans la raison, la force corporelle est absolument incapable d'améliorer l'âme. Voilà la version qu'en fait Démocrite. Et il ajoute cette autre pensée, « Le bonheur ne consiste pas dans la possession du troupeau et de l'or, c'est dans l'âme que se situe le siège de la béatitude. »
Plus concis et directif, saint François de Sales, à la Renaissance, énonce « Il faut soigner le corps pour que l'âme s'y plaise. »
De façon très pragmatique, le philosophe Alain nous explique la puissance et la prépondérance de l'âme sur le corps. L'âme est ce qui refuse le corps. Par exemple, ce qui refuse de fuir quand le corps tremble, ce qui refuse de frapper quand le corps s'irrite, ce qui refuse de boire quand le corps a soif, ce qui refuse de prendre quand le corps désire, ce qui refuse d'abandonner quand le corps a horreur. Ces refus sont des faits de l'homme. Le total refus est la sainteté. L'examen avant de suivre est la sagesse. Et cette force du refus, c'est l'âme.
En littérature, l'âme est en quelque sorte le porte-drapeau du genre appelé le romantisme. De même que deux âmes peuvent se compléter, s'assembler, il n'y en a pas deux identiques. Chaque culture a son romantisme, avec des traits qui lui sont propres. Par exemple, les Slaves sont reconnus pour avoir une âme particulière. Belinsky, critique littéraire extrêmement influent en Russie durant la deuxième moitié du XIXe siècle, a défini le romantisme russe comme un état d'âme constitué d'élans vagues, d'espérances confuses et de la nostalgie de rêves jamais réalisés. C'est le thème du sonnet d'Alexis Félix Arvert dans « Mes heures perdues ».
Mon âme a son secret, ma vie a son mystère, un amour éternel en un moment conçu. Le mal est sans espoir, aussi j'ai dû le taire, et c'est celle qui l'a fait, n'en a jamais rien su. Hélas, j'aurais passé près d'elle inaperçue, toujours à ses côtés et pourtant solitaire.
Voilà Lily ce qu'on appelle errer comme une âme en peine, en ayant du vague à l'âme. Madame de Staël a su croquer cet état d'âme, en y ajoutant la notion de temps. On peut encore aimer, mais confier toute son âme est un bonheur qu'on ne retrouve plus. Du temps aux mathématiques, il n'y a qu'un pas. C'est en comptable que notre ami Jean de La Fontaine a étudié la question. Pour une qu'amour prend l'âme, il en prend mille par les yeux.
En témoignage de l'amour inconditionnel, les Espagnols ont pour proverbe « Si j'avais mille âmes, je te les donnerais. Je n'en ai qu'une, prends-la mille fois. » Pour illustrer cette pensée, écoutons le poème de Théophile Gautier, dont le titre est très évocateur « À vos deux beaux yeux ». À toi Marc Page.
Vous avez un regard singulier et charmant, comme la lune au fond du lac qui la reflète. Votre prunelle, où brille une humide paillette, au coin de vos doux yeux roule languissement. Il semble avoir pris ses feux aux diamants. Ils sont de plus belle eau qu'une perle parfaite, et vos grands cils émus, de leur aile inquiète, ne voilent qu'à demi leur vif rayonnement. Mille petits amours à leur miroir de flamme se viennent regarder et s'y trouvent plus beaux, et les désirs y vont rallumer leurs flambeaux. Ils sont si transparents qu'ils laissent voir votre âme, comme une fleur céleste au calice idéal que l'on apercevrait à travers un calice.
venons d'écouter Wolfgang Amadeus Mozart dans Lacrimosa. Cette œuvre incite sans effort à recommander son âme à Dieu. Serge Gainsbourg, connu pour n'avoir ni Dieu ni maître, s'interroge. Rendre l'âme, d'accord, mais à qui ?
Peut-être avait-il déjà vendu son âme au diable. Voilà un état bien peu enviable et qui doit engendrer la solitude. À ce propos, le recueil « Les solitudes » du romantique Sully Prudhomme fait l'inventaire du corps humain pour mieux unir les âmes.
Heureux les cœurs de sang. Leurs battements peuvent s'entendre. Et les bras, ils peuvent se tendre, se posséder en s'enlaçant. Heureux aussi les doigts, ils touchent. Les yeux, ils voient. Heureux les corps. Ils ont la paix quand ils se couchent et le néant quand ils sont morts. Mais oh, bien à plaindre les âmes, elles ne se touchent jamais. Elles ressemblent à des flammes ardentes sous un verre épais. De leur prison mal transparente, ces flammes ont beau s'appeler. Elles se sentent bien parentes, mais ne peuvent pas se mêler. On dit qu'elles sont immortelles. Ah, mieux leur vaudrait vivre un jour, mais s'unir enfin. Dussent-elles s'éteindre en épuisant l'amour ?
C'est peut-être en écoutant ce poème que notre cher Oscar Wilde s'est fait cette réflexion. L'âme naît vieille dans le corps. C'est pour la rajeunir que celui-ci vieillit. C'est la quête éternelle de l'âme sœur. C'est une autre quête et une autre voie qu'a explorée la romancière Cookie Alley dans son roman Les masques et les plumes. Chacun et chacune dans son existence fait le rêve de changer de vie. Une autre identité, une autre destinée. Ici, masques et jeux de miroir sont des accessoires nécessaires, mais le rythme intérieur de chacun, qu'en est-il ?
Le rythme, c'est l'homme. Et le repérer, je veux dire, dans tous ses avatars et toutes ses contradictions, se révèle souvent bien plus compliqué qu'il n'y paraît. On peut courir très vite et manger très lentement, avoir une pensée foudroyante et une locution indécise, ou le contraire. Plaqué sur ces diverses manifestations de la vie, comme autant d'accords intimes, colorés de nuances infimes et infinies, le rythme compose une musique individuelle, à nul autre pareil. Connaître le temps de quelqu'un, c'est pénétrer son âme. Mieux vaut être averti avant de s'y aventurer, avant de faire son nid dans les replis d'une âme étrangère.
Edgar Allan Poe, générateur d'œuvres fantastiques, par rapport à l'âme, est resté à la hauteur, disons, des eaux dormantes. Mon âme était un courant stagnant. L'âme est-elle voyageuse, Lily ?
Un proverbe français répond en partie à cette question. Plus l'âme est loin des sens, plus elle est près des cieux. Nous allons maintenant retrouver Sully Prudhomme, décidément fort inspiré par le monde des âmes. Il mêle l'univers, la science, la poésie et les pommes.
Newton, voyant tomber la pomme, conçut la matière et ses lois. Oh ! Surgira-t-il une fois un Newton pour l'âme de l'homme ? Comme il est dans l'infiniment bleu un centre où les poids se suspendent, ainsi toutes les âmes tendent à leur centre unique, à leur Dieu. Et comme les sphères de flammes tournent en s'appelant toujours, ainsi et harmonieux amours font graviter toutes les âmes. Mais le baiser n'est pas permis aux sphères à jamais lancer. Les lèvres, des regards amis, joignent les âmes fiancées. Qui sondera cet univers ? Et là très puissant qui le mène ? Viens au Newton de l'âme humaine, et tous les cieux seront ouverts.
C'est ce qu'on appelle avoir l'âme en paix et l'esprit serein. Horace s'inscrit en faux car il assène. L'homme a beau parcourir les mers, le ciel change, pas son âme.
C'est tout à fait l'interrogation du personnage de la mer, composé par Jules Barbey d'Orvilly, envers sa fille. C'est un implacable portrait de femme où l'auteur aborde ses thèmes favoris. Passion, mystère, suspense et un certain goût de l'horreur. Écoutons Lily Littérature qui a dû s'habiller d'une âme sombre pour vous lire cet extrait tiré d'une histoire sans nom.
Sa mère la contempla longtemps, avec la pitié mêlée de terreur que lui causait le désastre de sa fille, de ce visage. Elle n'avait jamais dit à sa fille qu'elle la trouvait belle, mais au plus profond de son âme, elle n'avait pas moins la fierté du visage de l'asthénie, quoiqu'elle n'en parlât jamais. La janséniste austère, de peur d'exalter deux orgueils, celui de sa fille et le sien. Aujourd'hui, ce visage ravagé la navrait. Ah, pensait-elle, cette fille charmante sera peut-être affreuse et tout à fait imbécile demain. Elle voyait déjà poindre le idiotisme à travers cette fille, morte avant d'être morte. Car on croit que les corps de la plupart de ceux qui meurent s'en vont de ce monde les premiers, et avant leurs âmes. Mais pour d'autres, les corps restent là, dans la vie, quand les âmes, depuis bien longtemps, n'y sont plus.
Si l'âme est invisible, certains personnages, en vouant leur vie aux autres, se distinguent par une âme lumineuse et noble. C'est le cas de Gandhi, du Dalai Lama, de Mère Teresa, tous religieux, mais également de grands artistes qui, par leurs œuvres, apportent un supplément d'âme à tout un chacun, tels Bach, Léonard de Vinci, Victor Hugo et bien d'autres.
Ces êtres exceptionnels avaient saisi la justesse du proverbe iranien « Les biens sont pour l'âme et non l'âme pour les biens ».
L'accumulation des biens terrestres ne profite en rien au salut de l'âme. C'est dans l'esprit que Julien Green a écrit cette formule « Qui a deux femmes perd son âme, qui a deux maisons perd sa raison ».
C'est le risque d'avoir charge d'âme, Marc Page. D'ailleurs, tu m'as soufflé cette petite boutade. Chez le citadin, son âme est vile, et chez le bijoutier, son âme est tiste.
Plus sérieusement, Balzac, dans son étude de couple intitulée « Physiologie du mariage », a fait le choix du féminisme en déclarant « Il n'est peut-être pas indifférent à certains anatomistes de la pensée de savoir que l'âme est femme. »
Je suis corps et âme avec le Saint Honoré des Lettres.
Toute proportion gardée, c'est la mort dans l'âme que nous vous laissons pour aujourd'hui. Au revoir.
La musique entêtante de Karl Hoff et son Carmina Burana, musique propre à rendre l'âme, fera office de conclusion et fera retentir la cloche du portillon du Jardin des Mots en se refermant. Au revoir. Thank you.